L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission, le magazine de Radio Évasion. Aujourd'hui, on met ses bottes, on prend la clé des champs, des prairies, on va découvrir le bocage breton. Braise Bocage, c'est le nom d'un programme qui vise à sauver, enfin préserver en tout cas, et entretenir le bocage qui existe dans notre région, puis aussi à reconstituer éventuellement celui qui existait autrefois, car on le sait maintenant, le bocage a beaucoup d'intérêt. On va explorer ça pendant cette émission. Braise Bocage, c'est un programme régional qui est mené par différents acteurs, et notamment au plus près de chez nous, c'est l'EPAGA, donc l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'Aulne et de l'Yerre, que vous connaissez sans doute si vous écoutez Radio Évasion. Avec nous, il y a l'une des vice-présidentes, Laura Jambou, et puis la technicienne chargée de Braise Bocage, Nora Abbeau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est l'EPAGA? Un petit mot pour rappeler, même si les gens connaissent chez nous, en tout cas.
Alors, l'EPAGA, donc l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'Aulne, a été créé en 2008 pour porter le SAGE. Alors, le SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. C'est un document de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant. Le bassin versant de l'Aulne, donc il a une superficie de 1900 km² et se situe sur trois départements du Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan, s'étalant de la presqu'île de Crozon à l'ouest à la commune de Glomel à l'est, au Mont d'Arrée au nord et aux Montagnes Noires au sud. Le bassin versant de l'Aulne est un territoire où toutes les pluies qui tombent au cours de l'année s'écoulent vers les mêmes rivières, puis vers le même fleuve, l'Aulne, et ensuite l'estuaire pour finir dans la rade de Brest. Quelques missions de l'EPAGA. Donc l'EPAGA en fait de l'animation de la commission locale de l'eau, la CLI, le suivi de la qualité de l'eau et des pollutions, la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, la gestion du soutien d'étiage de l'Aulne à partir du lac réservoir Saint-Michel, l'animation du site Natura 2000 Vallée de l'Aulne, l'inventaire des zones humides et la création et restauration du bocage via Braise Bocage.
Alors justement, le Braise Bocage, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors je ne sais pas si Nora Abbeau, qu'est-ce que c'est exactement le bocage?
Alors le bocage, c'est un paysage agricole qui va être façonné par l'homme. Il est caractérisé en fait par des parcelles agricoles qui vont être entourées de haies bocagères et d'alignements d'arbres. Suivant les régions, en fait, il va avoir plusieurs formes diverses et il est vraiment caractéristique de l'ouest de la France. Donc il est vraiment assez dense et c'est pour ça qu'on, suivant le bocage comment il est, on parle souvent de plusieurs bocages au pluriel.
Et c'est ça, parce qu'il peut y avoir le bocage, je visualise avec un talus ou sans talus, par exemple.
C'est ça, voilà. En fait, les haies peuvent être implantées à plat ou alors sur des talus qui peuvent être soit en pierre ou en terre, selon les régions.
Et chez nous, le bocage, enfin chez nous en Bretagne, le bocage, il est plutôt à talus, sans talus?
À talus, ouais, il y a tout beaucoup le temps, de talus, ouais. Sur le bocage breton.
Et on sait pourquoi, historiquement?
On va le reprendre un petit peu après, mais notamment, c'est parce qu'on a quand même énormément d'eau de surface sur la Bretagne, et du coup ça va permettre d'améliorer la qualité de l'eau et de retenir les eaux de ruissellement.
D'accord, oui, on verra ça dans les intérêts du bocage, bien sûr. Et on dit que la Bretagne est un pays de tradition bocagère, c'est vrai, c'est pas vrai?
Alors, en Bretagne comme en Normandie, le bocage c'est assez dense, il est composé principalement de haies sur talus, comme on disait tout à l'heure. On a environ 150 000 km de haies en Bretagne.
C'est ce qui reste là.
Ouais. Ouais. Et contrairement à certaines régions céréalières où les parcelles font des dizaines d'hectares, nous, sur notre territoire, c'est plutôt des petites parcelles et donc entourées de haies pour éviter aussi principalement le ruissellement. Et de plus, en Bretagne, compte tenu du climat et de la géologie, le rôle de brise-vent est important aussi et le caractère anti-érosif.
Contre l'érosion?
Voilà, oui. Contre l'érosion des talus, pardon, est très important. Il permet aussi de protéger le bétail et les cultures. Il y a un intérêt là-dessus aussi au niveau de l'élevage.
Oui, parce que ça dépendait de ce qu'on cultivait. Enfin, c'est ça, quand c'est de la céréale, c'est peut-être moins important d'avoir des haies que quand c'est des animaux, pour pas qu'ils s'échappent, non, j'imagine.
Au niveau des animaux, ça leur permet aussi d'avoir de l'ombre. Ça leur fait un abri naturel, enfin, ça les protège quand même beaucoup au niveau de la météo.
C'est ça, et comme en Bretagne, on faisait de l'élevage, il y avait forcément besoin de haies, ouais. Ouais. Il y avait d'autres raisons encore historiques, ouais. Non, c'est bon, on a fait le tour.
Ouais.
Donc ça, il y en a eu en fait jusqu'aux années 50, en gros, c'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a de moins en moins
Alors, ce paysage résulte d'une modification de l'environnement par les activités humaines, hein, et notamment les pratiques agricoles. Donc c'est directement influencé par le contexte socio-économique des territoires au fur et à mesure de l'évolution des modèles agricoles. Entre 1955 et 1975, période de la mécanisation de l'agriculture, le paysage bocager a subi le remembrement agricole. Donc c'est le regroupement de plusieurs parcelles en une seule, amenant la destruction d'une grande partie des haies.
Et pourquoi c'était plus simple pour les agriculteurs d'avoir moins de haies, en fait ? C'était quoi, à cause de la taille des tracteurs, c'est ça ?
La rapidité aussi, vous n'êtes pas obligé de changer de parcelle quand quand vous cultivez. Le fait d'avoir des grandes parcelles facilite, en fait, quelque part, la culture. Alors que les petites parcelles, c'est peut-être plus difficile à l'heure actuelle, peut-être aussi vu la taille du matériel agricole, de travailler des petites parcelles que des grandes.
D'accord.
Et selon... en France, il estimait qu'environ 2 millions de kilomètres de haies ont été supprimés durant cette période.
Depuis les années 50 ?
Depuis le remembrement, oui.
Ouais.
Et selon une étude réalisée par les PAGA en 2012, sur 24 communes du bassin versant de l'Aulne, environ 50% du bocage aurait disparu entre 1961 et 2009. Donc à l'échelle de la Bretagne, il estimait qu'1% des haies disparaissent chaque année.
Ah oui, encore maintenant, quoi. Le rythme est encore important. Et les 150 000 km dont on parlait, c'est pour l'ensemble de la Bretagne ou pour le Finistère ?
Oui, la Bretagne.
D'accord. Ouais, donc vraiment entre 2 millions et... on voit le gouffre en effet.
Après 2 millions, c'était pour la France.
C'était la France, d'accord. Okay. Et alors, maintenant, on en arrive au point crucial, c'est que si on les restaure et si on les préserve ce qui existe, c'est parce que ça a plein d'intérêts. On les a évoqués rapidement, mais on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail. C'est quoi alors les intérêts ?
Déjà, en Bretagne, donc, on disait que les haies étaient implantées sur des talus, donc le rôle principal, en fait, ça va être la limitation du ruissellement et de l'érosion. Donc les talus vont être implantés en travers de la pente. En fait, quand il va y avoir des fortes pluies, l'eau, elle va ruisseler, et du coup, elle va emporter aussi de la terre. Donc si jamais il y a des talus qui vont se mettre en travers, ça va permettre de retenir la terre et la garder dans les parcelles agricoles.
Ça fait des mini-barrages,
c'est
quoi,
ça,
si on veut.
Des mini-barrages. Et dans les campagnes sans bocage, il peut y avoir des pertes de terre qui peuvent être très très importantes. Et notamment pour illustrer ce fait-là, le 24 avril dernier à Motreff, donc une commune à côté de Carhaix, il y a eu 60 mètres cubes de boue qui se sont échappés d'un champ et qui sont arrivés dans le garage d'un couple de particuliers.
Ah ouais.
Voilà.
Et sinon, ça peut arriver quoi dans les rivières ? Ça envase les rivières aussi, c'est ça le problème ?
Ça arrive directement dans les rivières et après, ça va impacter la qualité de l'eau aussi à l'aval.
Donc, les talus limitent l'érosion. Sinon, d'autres avantages, bien sûr, du bocage ?
Ouais, ça retient aussi du coup le ruissellement, donc l'eau. Donc, le fait que le talus va faire une barrière, l'eau va s'infiltrer beaucoup plus lentement et ça va permettre en fait à la crue, à l'aval, d'être beaucoup moins forte en fait.
Ouais, quand il y a cru. Ouais,
quand il y a cru, c'est ça. Dans le cas de gros épisodes pluvieux. Le deuxième avantage, on en a parlé aussi, c'est le rôle de brise-vent, en fait. Les haies vont vraiment servir de barrière, de protection pour le bétail ou pour les cultures. Les animaux sans abri vont consommer beaucoup d'énergie, en fait, à lutter contre les conditions climatiques.
Ouais, parce qu'ils ont froid, quoi.
Parce qu'ils vont avoir froid, et du coup, toute l'énergie qu'ils vont donner pour se protéger, ils ne vont pas le donner pour faire de la viande ou du lait. Donc il peut y avoir une différence de 4 degrés de température en fait, entre le centre de la parcelle et la lisière.
Ah oui.
Ouais, c'est assez important.
Ouais. Ouais.
Et avec les cultures, par exemple les cultures céréalières, donc ça va être une réduction en fait, du vent de 20 à 50% et aussi de 30% de l'évapotranspiration de la parcelle. Donc, ce qui fait que, par exemple, surtout en ce moment, on est en période de sécheresse en Bretagne, et c'est
près
de s'arrêter.
C'est officiel.
Je pense que le rôle des haies, il va être d'autant plus crucial.
Ah ouais, donc pour limiter l'assèchement des cultures, des plantes, en fait, c'est ça, quoi.
Ouais, ouais.
Ah oui, d'accord. Et puis, alors, il y a d'autres intérêts, peut-être moins directement sur la productivité agricole, mais sur... la biodiversité peut-être, non ?
Sur la biodiversité, c'est vraiment un milieu naturel en fait dans les parcelles agricoles. Donc il va y avoir une grande diversité faunistique et floristique. Ça va être un lieu de refuge, d'alimentation et de reproduction pour de nombreuses espèces, notamment des mammifères, des oiseaux ou des reptiles. Ça va servir aussi de corridor écologique, donc ça va permettre en fait de brasser des couloirs en fait entre des réservoirs de biodiversité comme des zones humides, des mares, des forêts, et ça va permettre en fait de faire un brassage génétique essentiel aux populations animales.
Ouais, parce que les animaux pour circuler préfèrent se cacher dans des haies que circuler à découvert.
C'est ça. Ils vont aussi accueillir, les haies vont accueillir aussi les auxiliaires de culture. Donc, ça va être des animaux qui vont protéger les attaques des nuisibles, par exemple.
Qu'est-ce que ça peut être ?
Ça peut être des insectes. Il y a beaucoup d'insectes qui vont se réfugier dans les haies, qui vont par exemple aller sur les pucerons ou des nuisibles de ce genre. Mm-hmm. Et puis bah, dans les haies, bien sûr, il y a du bois. Donc le bois, il peut être utilisé en tant que bois énergie. Mm-hmm. Il peut être coupé en bûchettes, donc pour faire du bois de chauffage. Il peut être aussi ramassé et broyé pour faire du bois déchiqueté et être utilisé dans les chaufferies bois. Mm-hmm. Et pour les plus beaux spécimens, le bois va être utilisé en tant que bois d'œuvre pour faire de la charpente ou de la menuiserie, par exemple.
On va jusque-là dans le Finistère, parce que j'ai l'impression que nos talus vont pas forcément beaucoup d'arbres, si.
Si. Bah après, c'est vrai que en ce moment, il a été démontré que le bocage est très peu entretenu, en fait. Donc avant, il y a 50 ans, c'était vraiment une des sources principales de revenus. En fait, on utilisait énormément le bois du bocage. Et en fait, maintenant, ça s'est perdu parce que bah, y a les autres énergies fossiles. Mais c'est vrai que maintenant, avec en plus la raréfaction des énergies fossiles et les crises actuelles, on peut se demander en fait si le bois, eh ben, ça peut être une solution alternative intéressante.
Quoi. Oui, ben, surtout à la radio, on est chauffé justement par la chaufferie bois du parc d'Armorique. On ne se pose même pas la question.
C'est ça.
Bon, là, on en a moins besoin en ce moment. Mais alors, donc, ce bocage, ouais, peut-être qu'on va revenir dessus sur la forme qu'il peut avoir, quelles essences vous préconisez. Enfin, ça, peut-être que vous nous direz ça tout à l'heure. Mais moi, j'ignorais qu'en fait, on n'avait plus le droit de détruire le bocage aujourd'hui, c'est ça ?
C'est ça.
Il y a la législation qui est en place.
Ouais, alors à l'échelle européenne, en fait, ça va être la politique agricole commune qui va régler un petit peu tout ça. Comme la majorité des haies, en fait, elles vont entourer des parcelles agricoles, les agriculteurs, ils ont l'interdiction de détruire les haies bocagères. Il peut avoir, en fait, des...
On en voit quand même pour autant qu'ils sont détruits.
C'est ça, ouais. C'est ça. Donc soit c'est des arasements illégaux, soit en fait ça va être des déplacements qui peuvent être réalisés sous forme de prescription. En fait, ça va être un organisme agréé qui va donner une autorisation à l'agriculteur si la haie arasée, si la haie créée aura un meilleur emplacement environnemental que la haie détruite.
Oui, mais il y aura forcément une création de haie pour compenser, c'est ça ?
Il y aura forcément une compensation, tout à fait, oui.
D'accord. Et les particuliers, ce n'est pas votre domaine, mais en gros, quand on achète un ancien terrain agricole, je ne sais pas, et qu'on a un talus, on a le droit, nous, de le détruire.
Alors, en tant que particulier, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, en fait, il y a les documents d'urbanisme qui vont aussi, qui peuvent intégrer, en fait, le bocage et une protection du bocage. Après, ça, c'est très, en fait, c'est dépendant de chaque commune ou chaque communauté de communes, en fait.
Enfin, de toute façon, si vous écoutez cette émission, vous avez compris que c'est pas une bonne idée. Voilà. alors, le rôle de l'EPAGA, donc, le programme Resbocage, donc voilà, bon, on l'a évoqué en intro d'émission, mais maintenant, on voudrait savoir exactement en quoi il consiste. Laura, non ? Nora ? Nora ou Laura ? Laura, j'en vous.
C'est surtout le rôle de l'EPAGA. Il porte et anime le programme Resbocage sur la partie finistérienne du bassin versant de l'Aulne. Donc, en fait, l'EPAGA sert à faire le montage de projets avec les agriculteurs depuis l'emplacement au choix des essences locales. Ensuite, là, il y a la réalisation des travaux par des entreprises, hein, donc création de talus, fourniture des plants, donc des essences locales uniquement pour les talus, un paillage avec du bois déchiqueté local et deux débroussaillages des haies. Le projet ne coûte rien à l'agriculteur. Il y a 20% restant après déduction des subventions, ils sont pris en charge par les PAGA. La seule contribution demandée est qu'il plante lui-même les arbres qui lui sont fournis. Donc en fait, il intègre le programme. L'EPAGA l'accompagne dans toutes les démarches administratives, fournit la création du talus et les plants. Et l'EPAGA prend en charge le reste à charge. Du coup, l'agriculteur n'a uniquement que à planter les plants lui-même sur son talus.
Et ce programme Resbocage, c'est un programme qui est financé par la région. Enfin, c'est qui est-ce qui l'a lancé au départ
le programme Resbocage, en fait, il a été initié par la région en 2008. Donc, c'est des financements européens. Il y a aussi la région aussi qui va financer, le département. L'agence de l'eau, et après plus localement, en fait, c'est avec les structures porteuses, donc comme les PAGA, qui vont financer aussi le programme.
Et alors, donc, pour ce qui est du Finistère, les structures porteuses, donc il y a les PAGA pour ce qui est du bassin versant,
de l'Aulne, c'est ça.
Ouais. Et sinon, les autres, ça serait quoi ?
Alors sinon, souvent, c'est des communautés de communes, ou alors des syndicats de bassin versant, c'est presque tout le Finistère est couvert par le programme Resbocage. Après, c'est les acteurs locaux qui vont s'emparer au nom du programme.
D'accord. Et donc, on peut dire que tout le département est couvert quand même, théoriquement.
Oui. Ouais. Oui, il y a juste une petite partie au sud, je crois, qui ne peut pas bénéficier de Resbocage.
Ah oui, quand même. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des objectifs fixés par Resbocage, justement, de reconstruire combien de talus, combien de mètres ?
Après, c'est assez spécifique, en fait, au territoire. Il y a des territoires qui vont plus mettre d'argent pour la création, d'autres qui vont avoir plus d'argent pour la gestion du bois, par exemple, les parties... nord de la Bretagne où il y a beaucoup de filières bois énergie qui est en place. Ils vont mettre en place beaucoup d'argent dans la gestion du bocage. Après, en fait, c'est assez spécifique. On met en place des stratégies en fait à l'échelle locale pour justement définir les objectifs locaux par rapport au bocage.
Et alors, en ce qui concerne le bassin versant de l'Aulne et de l'Yerre, c'est quoi les stratégies qui ont été définies, Laura Jambon?
Au niveau de l'EPAGA, c'est 5 km de haies plantées par an, ce qui fait un budget de 50 000 euros, parce que c'est 10 000 euros le kilomètre.
Quand même.
Et il y a aussi un programme de suivi du bocage qui va être mis en place pour voir tout ce qui a été déjà créé, faire un état des lieux, en fait, savoir s'ils sont toujours existants, s'ils sont en bon état.
Il est en cours, c'est un diagnostic qui est en cours alors.
Bon, en fait, c'est fait.
C'est fait au fur et à mesure en fait. Donc sur les temps de travail en fait, on va aller vérifier les linéaires. En fait, on a commencé à porter le programme en 2013. Donc il y a des haies qui vont avoir bientôt 10 ans et c'est de savoir si elles sont encore. Il y a un bon taux de reprise sur les plans, s'il n'y a pas eu de pertes, des choses comme ça quoi.
Mm-hmm. Et alors donc pratiquement, quand un agriculteur a fait la demande pour une constitution de talus et qu'il a obtenu, enfin, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous sur le terrain, Nora Abo, qu'est-ce que vous faites?
Alors, du coup, c'est déjà une rencontre avec l'agriculteur. Il va nous parler de son projet. Après, donc, on va avoir beaucoup d'échanges pour trouver le meilleur emplacement pour la haie.
L'orientation, donc,
l'orientation aussi sur si on redécoupe des parcelles agricoles ou est-ce qu'on va juste les mettre en bordure de champs. C'est vraiment spécifique en fait à chaque agriculteur. Après, moi, je vais avoir un rôle de conseil, notamment pour le choix des essences en fonction du rôle de la haie. Si par exemple l'agriculteur il veut une haie plutôt brise-vent, on va prendre des essences qui vont vraiment couper du vent, qui vont garder leurs feuilles ou qui vont grandir assez vite.
Par exemple, du style.
Ça. Par exemple, ça va être du prunelier, du charme. C'est des essences qui vont vraiment être adaptées à ces objectifs-là. Et aussi en fonction en fait de l'emplacement du talus, on va pas mettre les mêmes essences sur une haie qui va être en zone humide ou alors en zone de crête. Il faut quand même des essences qui soient adaptées plus ou moins à l'humidité quoi.
C'est ça, ouais. Et sur l'humidité, par exemple, ouais, si en zone humide, ça sera quoi plutôt?
Alors on peut mettre du saule, l'aulne aussi, l'aulne glutineuse, c'est vraiment une espèce locale et qui demande juste à être plantée. Après il y a du frêne, du bouleau, c'est des essences assez adaptées aux zones humides. Ouais.
Donc vous faites planter, vous sélectionnez les essences, vous faites planter, donc c'est plutôt des arbustes.
Des arbres aussi, un tiers d'arbres, grands arbres.
Ouais. Et tout le reste des plantes en fait, enfin je sais pas, je vois sur les talus il y a des ronces parfois, enfin tout ça va venir tout seul en fait, c'est ça.
C'est ça.
Ouais. Vous faites pas planter les fleurs ou.
Non, on va laisser là.
Vous mettez pas des animaux aussi.
Oh, ils viennent tout seuls. Hein.
Ouais, ils viennent tout seuls, c'est ça. En fait, ouais, combien de temps il faut pour que cette haie, donc une fois qu'on a fait son talus, qu'on a planté ses petits arbres, combien de temps il faut pour que la haie, le bocage commence à être opérationnel vraiment?
Il faut savoir, nous déjà, on plante des arbres de 2 ans. Donc c'est vraiment des arbres, ils sont petits, ils font entre 50 et 70 cm. Donc les 2 premières années, en fait, après la plantation, ils vont vraiment développer leurs racines. Mm-hmm. Et après, ce sera au bout de 3, 4, 5 ans qu'on va vraiment voir le système aérien se développer, quoi.
Et le talus, d'ailleurs, il est fait en quoi? C'est que de la terre ou
que
ça peut
terre
être
végétale.
Du remblai? Ouais,
c'est que de la terre végétale.
Ouais. Il y a des obligations, j'imagine, réglementaires aussi. Pour. Et donc, les entreprises qui interviennent pour faire ça, c'est des entreprises spécialisées talus, bocage, comment ça se passe?
Alors, non, c'est une entreprise de terrassement. Là, pour la création du talus, c'est une entreprise de terrassement d'à côté de Landerneau. Et nous, on travaille avec eux depuis une dizaine d'années, je crois. Ils travaillent aussi avec le syndicat de bassin versant de l'Élorne, donc ils sont assez spécialisés là-dedans, mais ils font aussi tout type d'autres travaux après, quoi.
Ouais, donc c'est toujours la même, voilà.
C'est
et
ça.
Vous avez passé un marché public, etc. Quoi. D'accord. Et après l'entretien, alors vous faites surtout la constitution des talus, c'est ça, les pagas, mais est-ce que vous donnez aussi des conseils éventuellement d'entretien ou choses comme ça pour des talus existants?
Ouais, après on conseille les agriculteurs sur les premières tailles de formation, on appelle ça, sur à peu près 5 ans après l'implantation de la haie. Et on propose aussi des formations à destination des agriculteurs et des agents communaux 2-3 fois par an sur la période hivernale pour justement faire des tailles une gestion durable du bocage en fait. Comment utiliser la tronçonneuse, à quel endroit il faut couper les branches, quels arbres il va falloir plutôt faire tomber pour utiliser le bois et lesquels il faut plutôt les garder. Voilà, donc c'est vraiment tout un accompagnement aussi des agriculteurs derrière dans la gestion du bocage.
Et donc, il y a des communes qui font des reconstitutions de talus pour leur territoire ?
Alors les communes, c'est souvent sur en bordure de parcelles agricoles. Mais c'est, nous, on travaille beaucoup, enfin 95% c'est avec des agriculteurs.
Oui, c'est ça. Et effectivement, ça peut être... D'accord. Alors, pour l'instant, donc, vous l'avez un peu mentionné, mais vous n'étiez pas Nora Abo, vous n'étiez pas là quand le programme Brest-Bocage a commencé, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques résultats ? Enfin, je ne sais pas, c'est Laura Jambou plutôt, là.
Ouais, ouais. Depuis 2013, je peux vous dire, 60 km de haies ont été plantées sur le bassin versant de l'Aulne. Parmi elles, il y a 30 km de haies qui ont été plantées par les PAGAR et cela représente environ 15 000 arbres pour un budget de 255 000 euros. Et autour de 5 km de haies sont plantées chaque année, comme on disait tout à l'heure. Du coup, ça fait chaque année 50 000 euros.
Et est-ce qu'il y a des coins où il y a eu plus de plantations, où ça a mieux marché Alors, bassin versant, en tout cas de l'Aulne.
Ouais, c'est beaucoup des communes du sud en fait du bassin versant, autour de l'Aulne, autour de Châteaulin. Il y a Plébin aussi, qui a pas mal de linéaires, d'inéoles. Le cloître Plébin, vraiment ces communes-là. On en a un petit peu dans les Monts d'Arrée, mais vu que le bocage en fait est beaucoup plus préservé dans les Monts d'Arrée, du coup il y a pas, enfin les agriculteurs ne voient un petit peu moins la nécessité de replanter derrière. Quoi.
Et est-ce qu'il y a eu des agriculteurs qui ont qui étaient tellement convaincus en fait du programme, de l'intérêt, qu'ils ont rajouté, de leur poche entre guillemets, la création de talus ou...
Ça, je sais pas, j'ai pas trop l'historique, mais en tout cas, souvent les agriculteurs, si on a un gros projet en fait, et ben souvent on va faire une année des haies chez un agriculteur. Et il va vraiment trouver ça bien, il va nous en redemander pour l'année d'après en fait.
Ouais, donc,
des fois, on travaille sur 4-5 ans avec les mêmes agriculteurs.
Ouais, quels sont les retours justement que vous avez
Ils sont assez contents, hein, c'est vrai. Surtout sur les... On travaille beaucoup avec des éleveurs qui du coup, ils voient vraiment une différence. Leurs animaux qui vont être beaucoup mieux, qui vont aller se reposer en fait, le long de la haie. Donc c'est vrai que c'est assez gratifiant d'avoir ça comme retour de l'agriculteur.
Quand on dit les animaux, c'est essentiellement des bovins, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
Il y a des chèvres aussi, pas mal, et des moutons.
Ah oui, mais les chèvres qui ont besoin de talus pour les grignoter, bien sûr. d'accord, bon. Et donc, vous avez des actions, enfin, je ne sais pas à quel rythme vous travaillez hein, sur le programme Brest Bocage, mais est-ce que vous avez des actions prévues, là, à nous signaler
Juin, il y a l'EPAGA et le syndicat de bassin versant de l'Élorne qui organisent le concours local d'agroforesterie. Je vais laisser Nora en...
Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça alors
Donc le concours local d'agroforesterie, en fait, ça va être... c'est un concours qu'on met en place avec le syndicat de l'Élorne, du coup, sur les deux territoires. Et en fait, c'est pour valoriser les pratiques vertueuses envers le bocage par les agriculteurs. Donc par exemple, les agriculteurs qui vont avoir une gestion durable du bocage, qui vont intégrer vraiment leur haie dans le système agricole, que ce soit pour faire des haies fourragères pour les animaux ou qui vont utiliser le bois en tant que bois plaquette ou en tant que litière.
Ah oui, haies fourragères, on n'en a pas trop parlé, tiens, d'ailleurs, de ça. C'est quoi, par exemple, les essences
Alors, c'est des essences qui vont être naturellement pâturées, en fait, par les animaux.
Par exemple
On a le frêne, on a le noisetier, la bourdaine, en fait, qui vont apporter notamment du calcium, du phosphore et beaucoup d'essences médicinales aussi, pour que les animaux se soignent eux-mêmes et qu'ils aient des apports autres que le... Que l'herbe, en fait.
Ouais, ça renforce leur défense immunitaire.
C'est ça.
C'est ça. Et là, c'est les animaux qui se nourrissent directement à la haie. On fait pas de...
Ça peut être les deux, en fait.
Ah ouais.
Ça peut être les animaux qui vont venir directement manger par-dessus, en fait, le fil électrique. Ou alors, il peut y avoir des coupes de la haie par l'agriculteur qui vont le placer après les bois dans le champ et les animaux vont se servir.
Ouais, ou les nourrir l'hiver aussi.
C'est ça.
Ouais, d'accord. Donc, ouais, et encore, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pratique d'agroforesterie qui sont récompensées par ce concours
Après, c'est ça. C'est après, il va y avoir en fait un jury local qui va venir passer le 9 juin dans les fermes agricoles. Voilà, si jamais il y a des agriculteurs qui nous entendent et qui veulent participer à ce concours, n'hésitez pas à me contacter. Pour avoir plus d'informations.
Nous, on connaissait le programme des prairies fleuries. Alors ça, c'est, vous en occupez aussi, non, celui-là
Non, ça, c'est le parc, je crois, qui le porte cette année. Donc voilà, c'est les mêmes catégories, en fait. C'est le concours général agricole de Paris, en fait, après,
Décerner les prix, quoi.
C'est ça,
ouais.
Tout à fait.
Et celui d'agroforesterie, il est récent. Enfin, dans le Finistère, il a déjà eu lieu,
Pas sur notre territoire, il a eu lieu sur le Nord Finistère.
Et combien il y avait de participants ?
Alors, je crois qu'ils étaient 4 ou 5, sur le Léon, après. Et justement, le lauréat de l'année dernière, il a gagné le concours d'agroforesterie à Paris.
Ah oui, donc c'est balbutiant, mais c'est, pour l'instant, les participants sont motivés et efficaces, c'est ça ?
C'est ça.
Très bien. Eh bien, c'est jusqu'à quand les inscriptions pour les agriculteurs ?
Jusqu'au 1er juin.
D'accord, bon, ça laisse encore un peu le temps. Eh bien, nous allons vous remercier pour toutes ces informations sur le bocage. Vous reviendrez d'ici quelques mois à nous parler de la suite de ce programme. Ou alors, on pourra faire un reportage terrain aussi pour l'illustrer éventuellement. Mm-hmm. Et vous pourrez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Évasion.
Merci.
Merci. Merci.